I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 286 du podcast Touchdown Actual. Un matin, très heureux de vous retrouver pour le début de la grande préparation à la draft. Oui, nous sommes sur la rampe de lancement. À mes côtés cette semaine, il y a donc Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Grégory, c'est l'heure de la draft, donc on l'a dit, on va commencer tranquillement avec un top 15 des meilleurs prospects, histoire de mettre les choses au clair très rapidement. On a décidé de sélectionner la crème de la crème, le meilleur des meilleurs. On est d'accord, Greg, on est sur de la valeur pure là, on prend les 15 meilleurs.
Oui, tout à fait. Alors, tu fais bien de me tendre de la perche par rapport à ça. Je précise d'emblée, les rankings, ça tiendra compte en partie de mes préférences et en partie des positions, ou en tout cas des environs où devraient être draftés les joueurs si on prend les projections actuelles.
Donc le programme est clair, un top 15, vos questions et on aura fait un premier tour de la draft. Évidemment, c'est le début d'une longue série de podcasts, il y en aura au moins 4 autres pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer au mois d'avril prochain. Vous savez tout, premier jingle et on commence. 4 and 3 and 2 and 1.
Hi, this is Navarro Bowman from the 49ers.
Hello, this is Danny Woodhead.
How you doing? This is Mike Wallace. I'm Lamar Miller, the running back from Miami Dolphins.
Hi, it's Brendan Clark from the Dallas Cowboys.
And you listen to the Touchdown Podcast.
Grégory, nous sommes partis sur le top 15 de la draft NFL 2019 et je vais traiter la question évidente tout de suite, comme ça ce sera réglé. L'éléphant dans la pièce, comme disent nos amis américains. Il n'y a pas de quarterback dans ce top 15, pourquoi ?
Alors comment t'expliquer ça ? Parce que quand même, classe de quarterback pas aussi mature entre guillemets. Alors c'est paradoxal de dire ça parce que Sam Darnold était un joueur uniquement de deuxième année d'un point de vue footballistique l'année dernière, mais on sait que c'est une classe cette année qui est un peu particulière parce que l'année prochaine il y a beaucoup de prospects importants qui sont censés arriver, notamment le quarterback d'Alabama, Tua Tagovailoa, et on sait que...
Ah, comment il fait exprès de le prononcer bien, parce que je l'ai mal prononcé la dernière fois.
Et du coup, voilà, je pense que certains quarterbacks voulaient avoir l'opportunité d'être le premier QB choisi lors de cette QV, et il y en a peut-être certains qui se sont un petit peu précipités. C'est le cas notamment d'un Dwayne Haskins, par exemple, du côté d'Ohio State, qui est également sophomore et qui a sans doute forcé un petit peu la décision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être pas forcément aussi armé, aussi équipé pour faire partie de ce top 15. Après, voilà, il y a beaucoup de quarterbacks qui flirtent aux alentours du premier tour. Je me permets de répondre à ta question, mais pour anticiper un petit peu au niveau du big board qui sera publié ce week-end, il y a à peu près 4 quarterbacks qui figurent quand même à peu près dans le top 50. Avec, il me semble, notamment Dwayne Haskins qui doit être aux alentours de la 30e place. Donc, Bon, c'est voilà, c'est une classe de quarterback qui a l'air un peu moins séduisante, un peu moins glamour que ce qu'on a pu voir l'année prochaine, l'année dernière, pardon. Mais pour le coup, ça reste des projets intéressants et des joueurs qui seront susceptibles de, d'être sélectionnés au premier tour.
Tua Tagovailoa.
À tes souhaits.
Tua Tagovailoa. C'est bon.
Alors, je sais pas si c'est moi qui frime, mais il fait quand même exprès de dire le nom en entier juste pour montrer que.
non, bah c'est non parce que on en a parlé en antenne avant. Du coup, son prénom en entier, c'est pas Tua, c'est Tuanigamanuolepola.
Ouais, parce que sinon c'est trop facile.
Mais ça, on le créera pas le jour de la draft.
Oui, oui je pense pas non plus.
Vous êtes plutôt à l'abri. Bon, lui, c'est l'an prochain. J'ai un an pour m'entraîner. On l'a dit. Donc, allez, petit teasing de l'émission Quarterback. Tu ne donnes même pas d'argument. Kyler Murray, Drew Lock, Dwayne Haskins, si j'ai bien compris, sont les trois premiers quarterbacks.
Ouais.
Lequel tu prends ?
Pas forcément dans cet ordre-là pour moi. Mais
ah, justement, lequel tu prends ? C'est ma question. Tu es GM,
Dwayne
tu peux
Haskins.
Choisir un des trois.
Dwayne Haskins. Voilà.
Pas d'argument.
Pas d'argument, on dira plus lors de la preview, t'as raison.
C'est ça, c'est un teasing sauvage pour la prochaine émission. Le big board donc commence maintenant avec le top 15 et le numéro 1, c'est Quinnen Williams, defensive tackle. D'Alabama, pardon. 15 matchs, 71 plaquages, 19 plaquages pour perdre, 19,5 l'an dernier, 8 sacs, une passe déviée, il fait 1m93 pour 134 kilos. Alors, je balance de la comparaison sauvage. Alors, je rappelle le principe de ces émissions. Hein. Je donne des relances, Grégory vous explique tout. Voilà. C'est lui qui est compétent sur le sujet. Moi, je suis là pour faire celui qui ne connaît pas et qui découvre, ce qui est vrai. Et comme ça, je vous accompagne dans la découverte en questionnant Grégory. Grégory, est-ce que Quinnen Williams pourrait être un Aaron Donald avec 10 kilos de plus ?
En tout cas, ça peut en prendre la tournure de ce qu'il a montré. Là, il a clairement été bluffant tout au long de cette saison. Il faut savoir que c'est un joueur qui était même pas titulaire l'année dernière du côté d'Alabama, donc qui a vraiment pleinement explosé cette année. Et bon, on découvre pas qu'il y a du talent généralement défensivement du côté du Crimson Tide, encore moins sur la ligne défensive. Mais là, c'est un joueur qui a vraiment qui s'est intégré petit à petit et qui est vraiment très rapidement devenu un leader et surtout un joueur extrêmement polyvalent. Ça va être d'ailleurs, hein, c'est un petit teasing également, mais ça va être à l'image de cette classe qui va être très axée défense, très axée ligne défensive et très axée lineman intérieur spécialisé dans le pass rush. Et Quinnen Williams a très clairement cette arme à disposition. Vraiment très difficile à contrer en un contre un, des mains extrêmement violentes, on sait que j'aime beaucoup ça.
Oui, c'est un des termes qui va revenir. Si vous découvrez les émissions de draft, je précise parce qu'on a des nouveaux éditeurs quand même, les mains extrêmement violentes, Grégory, c'est quoi ?
Les mains extrêmement violentes, c'est des mains qui sont constamment en mouvement et qui sont très bien placées par les joueurs en question pour justement mettre hors de portée son adversaire direct. C'est pas simplement le fait de, on va dire, alors tenir, non, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on fait, mais en tout cas, tenir en respect son adversaire, voilà, c'est vraiment le mettre, presque le dégager de son chemin pour vraiment réussir à mettre la pression sur le quarterback adverse, ou en tout cas pénétrer dans le backfield offensif adverse. Très clairement, Quinnen Williams a montré qu'il a cette capacité, et ce qui a été encore plus impressionnant tout au long de la saison, c'est qu'il a été capable sur le front 3 d'Alabama d'être un defensive end 34, mais aussi, en fonction des situations, d'être un excellent obstacle. C'est-à-dire que il peut parfaitement gérer les duels en homme à homme, mais il est aussi parfaitement capable de libérer des brèches quand il se retrouve en double team. Et ça, c'est quelque chose qui est malgré tout une denrée rare, parce que même si cette classe de linemen défensif, elle est hyper impressionnante avec beaucoup, beaucoup de profondeur, il n'y a pas forcément des profils aussi polyvalents et surtout aussi efficaces dans autant de compartiments de jeu que ce que peut apporter Quinnen Williams sur le papier.
C'est un peu le prototype du defensive tackle moderne, quoi.
Exactement, bah, c'est ce qu'on a vu lors du combine, c'est des linemen défensifs qui courent sous les 5 secondes sans trop de problèmes, et en effet, qui sont capables d'être à la fois physiques, de conserver le physique, tout en ayant une rapidité assez bluffante, notamment dès le snap.
À quel niveau, d'après toi, il va être sélectionné alors, à quel niveau derrière le premier quarterback qui sera sélectionné ? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est que vous avez passé des mois à nous dire que les quarterbacks sont moyens, mais on sait très bien qu'il y a une équipe qui va se précipiter dessus, au moins sur le premier, voire le deuxième choix. Mm-hmm. Est-ce que Quinnen Williams sera le premier joueur sélectionné derrière un quarterback ?
Honnêtement, s'il n'y a pas de surprise, forcément, 4 blessures ou je ne sais pas, je prends des exemples un peu farfelus, mais voilà, type type détection cardiaque un petit peu bizarre comme on a pu voir ces dernières années, ce qu'on lui souhaite pas bien entendu. Honnêtement,
ou s'il allume pas un joint pour annoncer sa retraite.
Oui, pourquoi pas aussi. Mais non, pour moi il doit sortir top 3. Franchement,
top 3,
c'est le, enfin dans les, je pense que dans les boards des équipes là, encore une fois, c'est ma préférence personnelle. Pour moi, il est 1 ou 2 je pense sur chaque board des différentes équipes.
Et donc dans, tiens, je me suis pas mis devant le nez le top de la draft actuelle, mais tu le verrais bien chez qui du coup?
Si je regarde là comme ça, bah c'est un petit peu l'énigme, mais je trouve qu'Arizona il irait très très bien. Surtout qu'Arizona, alors, va repasser sur un front 34, va avoir énormément de besoins sur la ligne défensive. Et comme je le disais, avec un Quinnen Williams qui peut abattre pas mal de boulot, ça peut permettre, on va dire, sans recruter d'énormes stars à ses côtés, déjà d'avoir une ligne défensive assez dissuasive. Donc Arizona, ça me paraît quand même une assez bonne solution.
Bon, et puis derrière, il y a San Francisco ou les Jets qui ne seraient pas contre, hein, a priori.
Ouais, ou Tampa également, parce que là aussi, ça a passé sur de la 34 avec éventuellement des besoins sur la ligne défensive. Mais déjà, ça reste un cinquième choix. Donc, voilà, je pense que oui, même Oakland, quatrième choix, San Francisco, pourquoi pas, hein, pour l'associer à DeForest Buckner. Tu as raison, ça peut tenir la route. Il y a clairement énormément de possibilités. Et voilà, ce sera un problème de riche à gérer de la part des équipes qui sélectionneront haut lors de la draft.
Bon, il ne va pas rester longtemps. Ce garçon, numéro 2, Nick Bosa, defensive end qui sort d'Ohio State. Il n'a joué que 3 matchs l'an dernier, mais il a eu le temps de cumuler 4 sacs quand même. 1m93, 119 kg, et c'est évidemment le frère de Joey Bosa. 3 matchs, 4 sacs, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je peux m'aventurer à dire que c'est un pur pass rusher.
Oui, alors j'aurais pu le mettre dans les petits points faibles, les fameux red flags qu'aiment bien signaler les Américains, notamment d'un point de vue blessure. C'est vrai qu'il a manqué beaucoup de matchs cette saison, mais il a aussi manqué beaucoup de matchs pour se préserver. Il a manqué donc une partie du début de saison 2018 pour une blessure à l'abdomen, si je me rappelle bien. Et voilà, on va dire que pour préserver ses chances d'être sélectionné relativement haut, il s'est plus que préservé. Il nous a fait une Le'Veon Bell version college football.
Il n'est pas le seul, hein, on en parlera, mais.
Oui. Bah, y en a de plus en plus, hein, de toute façon. Il suffit de voir les bowls où les joueurs boycottent. Sans trop de soucis, mais en tout cas voilà, Nick Bosa a conservé quand même une certaine cote, s'est bien maintenu en forme mine de rien au cours de ces dernières semaines, et sur le papier, alors je saurais pas dire, parce que j'imagine que tu vas peut-être me poser la question de savoir s'il est plus fort que son grand frère.
Alors exactement.
En tout cas, il est quand même aussi complet. C'est typiquement le type de defensive end qu'on recherche à l'heure actuelle. Capable d'être là encore hyper explosif dès le snap, d'être hyper rapide pour réussir à prendre le coin efficacement, une panoplie de moves. Je pense que c'est celui qui est le plus capable d'être réactif dans ce secteur là, de s'adapter on va dire à la position et au placement de son adversaire, et puis techniquement il est très très propre aussi. Donc c'est un defensive end qui va être très recherché, qui peut jouer sur 3 tentatives et qui, voilà, forcément sera pas simplement un edge setter chargé de bloquer contre la course, mais qui va être vraiment la principale, qui peut être en tout cas la principale menace. Un joueur très très recherché, et comme Quinnen Williams, je serais étonné qu'il passe au-delà du top 3 ou du top 5 de cette draft 2019.
Bon, et donc là, les suspects sont les mêmes. Hein. À peu près toutes les équipes, de toute façon, en haut, auraient besoin d'un pass rusher de ce calibre. Donc, on va pas. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait un fit parfait. Ou alors, est-ce que San Francisco pourra rajouter un pass rusher justement de l'autre côté?
Pourquoi pas. Après, je trouverais que ça. Alors, ça, c'est que mon avis à moi, hein, en l'occurrence. Mais je trouverais que ça ferait peut-être un petit peu embouteillage, surtout s'ils espèrent.
Que les autres se
naïvement,
développent.
Naïvement, peut-être que Solomon Thomas se développe un petit peu. Mais il peut éventuellement lui mettre quelqu'un de l'autre côté, c'est pas interdit. Les Jets, ça me paraît un point de chute intéressant, mais il faut voir s'il peut descendre en troisième choix. En tout cas, ça aurait de la cohérence, même si faudra déterminer le système préférentiel défensivement des Jets. Moi, j'ai tendance à voir Bosa plus comme un defensive end 43. Maintenant, je l'ai dit, il a la vitesse, il a l'explosivité pour éventuellement passer en 34, mais son gabarit va peut-être pas l'aider en ce sens, donc ce sera quand même à surveiller.
Numéro 3, Devin White, linebacker de LSU, 1m85, 109 kg, 13 matchs, 123 plaquages, 12 plaquages pour perdre, 3 sacs, 6 passes déviées, 3 fumbles forcés. C'est évidemment le linebacker le plus complet de l'année, sinon il ne serait pas en 3ème position.
Tout à fait. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, et beaucoup d'analystes américains ne le sont pas. J'avoue que c'est très subjectif, hein, ce classement de Devin White, parce que c'est vraiment un joueur que j'adore depuis qu'il a porté le maillot d'LSU. Tu parlais tout à l'heure de lineman défensif moderne. Là, on est typiquement dans le linebacker qui sait à peu près tout faire et qui est absolument, qui est détonnant. C'est un joueur. Le mot pour le définir, Devin White, c'est rapidité, explosivité, et c'est un joueur qui est globalement propre au niveau du plaquage et qui est vraiment pour reprendre la comparaison avec des joueurs d'LSU, c'est un Deion Jones en beaucoup plus fort. Selon moi, en tout cas, c'est-à-dire que il va pas hésiter à blitzer constamment sur la poursuite. Il est excellent. Son gros défaut, et je pense que c'est pour ça qu'il est pas mal descendu dans beaucoup de mock drafts, c'est peut-être son engouement, on va dire, son excès de d'enthousiasme, si je peux parler ainsi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un joueur qui va avoir tendance à beaucoup se fier à ses instincts et beaucoup se laisser aller et du coup se faire un petit peu enfermer. Peut-être également bâcler certains plaquages encore une fois en se laissant aller un petit peu sur le blitz ou sur la poursuite. Et ça, c'est des choses qui vont être à corriger. La question du schéma préférentiel également. De par son gabarit, est-ce qu'il est capable d'avoir suffisamment de puissance, par exemple, pour évoluer sur un poste d'inside linebacker 34? Ce serait peut-être plus un middle 43, voire peut-être dans une 43 jouer linebacker côté faible. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, il sait couvrir, et ça, c'est une chose qui est devenue prépondérante pour les linebackers en NFL. Et puis encore une fois, c'est un joueur qui sait plaquer, qui sait blitzer. Qui sait tout simplement être dissuasif et être potentiellement crédible sur 3 tentatives, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser.
Je vais faire ça pour beaucoup de joueurs, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui découvrent ces profils. Est-ce que tu as une comparaison NFL ?
Moi, je te dis Deion Jones, ça me paraît pas mal. Deion Jones, vraiment avec une marge de progression qui me semble encore plus importante que le joueur d'Atlanta.
Alors, je vais te demander souvent les comparaisons. Après, on est d'accord, hein, y a pas, tout le monde est
unique. Oui, j'ai pas potassé sur tout le monde en plus.
c'est ça. Numéro 4, Josh Allen, pas le quarterback, le linebacker de Kentucky, 1m96, 111 kg, 13 matchs, 88 plaquages, 21,5 plaquages pour perte, 17 sacks, 4 passes déviées, 5 fumbles forcés, 1 bloc. Alors, c'était sur un punt ou un kick-off ou un field goal, je n'ai pas vu sur lequel.
Je pense aussi.
Et alors, c'est un outside linebacker en 3-4, si je comprends bien, et on est plus dans le pur pass rusher là.
Alors ça, c'est une excellente question, Alain Mathieu, parce que c'est justement, le sujet qui m'enquiquine un petit peu sur Josh Allen. C'est un joueur extrêmement complet, comme on en a vu quelques-uns d'ailleurs sortir de la fac de Kentucky ces dernières années. C'est un joueur qui était principalement utilisé dans le front seven un peu hybride justement des Wildcats comme un edge rusher dans un système 34. Donc c'est un joueur qui est très grand, qui est très rapide, hyper explosif, qui lui aussi, j'allais dire en termes de move, c'est pas ce qu'il y a de plus développé par rapport à d'autres, mais bon, en tout cas il peut s'en sortir physiquement également, il peut se montrer dissuasif même s'il a encore... Il y a un peu d'irrégularité selon moi à ce niveau-là. Il y a eu quelques matchs cette saison où physiquement, dans la très éprouvante sec, je ne l'ai pas forcément trouvé hyper habile là-dedans. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement complet. C'est un leader d'équipe et c'est un joueur qui est parfaitement capable de mettre la pression. Hein. Il fait une saison à 17 sacks en 2018. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur bilan de college football cette année, mais ça doit... clairement pas en
c'est
être
pas
loin.
Mal déjà
c'est pas mal du tout, même quand tu vois la progression en plus, parce que c'est un joueur qui a pleinement explosé en 2017 et qui s'est pas caché cette année, qui a pas hésité à reprendre du leadership et à mener justement Kentucky à une excellente saison. Après, la question en effet, c'est de savoir quel est son poste préférentiel. Alors pour certains, il sera outside linebacker 34. J'aurais quand même tendance, de par ce que j'évoquais, notamment certaines difficultés, on va dire, sur le duel physique. En fait, pour faire simple, je pense que selon moi, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise dans la prise d'espace que sur le duel en homme à homme. Et c'est pour ça que je le verrais peut-être plus en tant qu'onside linebacker 43, peut-être sur le profil d'un Denis Barr, d'un Von Miller à ses débuts, ce type de profil-là plutôt qu'en tant qu'outside linebacker purement 34 où on va simplement, entre guillemets, lui demander de mettre la pression. Après voilà, c'est un joueur qui sait courir, c'est un ancien receveur, donc il a cette aptitude à savoir presser, plaquer, couvrir, donc là encore, ça coche toutes les cases, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire en défense, et je pense que ce sera un joueur de grand grand talent à l'échelon supérieur.
J'ai une petite question naïve sur sa mobilité, sur les mouches, je vois qu'il fait 1m96, ça me paraît assez grand pour un linebacker, non ?
C'est assez grand, mais en effet, c'est aussi, je pense que c'est aussi ce qui peut jouer en sa défaveur, mais en tout cas, il a démontré une mobilité assez intéressante malgré tout. On le répète, hein, mais de toute façon, plus les années passent, plus on a affaire à des phénomènes physiques. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à en évoquer un qui vous tient à cœur, à Raphaël et à toi, mais on a clairement des joueurs qui, malgré leur carrure, malgré leur physique, sont parfaitement capables de faire plusieurs choses. Après, est-ce que Josh Allen sera capable, justement avec ce physique, de répéter efficacement les efforts et de se montrer, d'apporter suffisamment de vitesse, notamment pour prendre le coin et prendre à défaut le tackle adverse ? Ça, pour moi, c'est encore une grosse zone d'ombre.
En tout cas, tu as cité Anthony Barr, du coup, je viens de vérifier, ils font exactement la même taille au centimètre près. Donc voilà, si vous cherchez à peu près le morphotype, Allen fait 1,96 pour 118 kg, Anthony Barr c'est 1,96 pour 112 kg, donc on est plus ou moins dans les mêmes standards. Un dernier mot sur Josh Allen, ou est-ce que tu le verrais bien, tiens ?
Ah bah, San Francisco, moi j'aimais bien. San Francisco, ça peut faire l'affaire parce que ça peut coller sur un poste d'outside linebacker 43 tout en permettant à San Francisco d'être plus performant contre la passe mais aussi contre la course.
Numéro 5, toujours, je crois qu'on est que sur la ligne, non, il y avait un linebacker, mais donc 5e choix, en tout cas 5e homme dans notre top 15, et 4e lineman défensif, Rashan Gary, defensive lineman de Michigan, 1m96, 128 kg, 9 matchs, 44 plaquages, 7 plaquages et demi pour perte, 3,5 sacs, et tu le disais, 4,58 secondes sur 40 yards. C'est encore un défenseur terrifiant, c'est un lineman qui peut courir, quoi.
C'est ça. Alors, il y a des petits points d'interrogation concernant Rashan Gary. Alors, lié à différentes choses, il faut savoir qu'il a traîné quelques petites blessures, notamment à l'épaule, il me semble, cette saison, ce qui a un petit peu perturbé son exercice 2018. Et il n'a pas eu forcément, pour un joueur qui a été une star hein, du recrutement de Michigan il y a 2 ou 3 saisons de ça, c'était le lycéen numéro 1 sélectionné par les Wolverines. Il n'a pas forcément eu l'impact qu'on espérait de lui, la production universitaire, on va dire, suffisante aux yeux des observateurs. Après, c'est là encore, je vais me répéter, mais c'est un panel qui est extrêmement varié, principalement utilisé du côté de Michigan comme un defensive end 34, un edge setter pur, mais qui, dans un système un peu hybride, pouvait être amené à être légèrement, on va dire, excentré et être un petit peu plus sur un rôle de pass rusher. Alors, on parlait du physique, en effet, c'est un joueur qui court le 40 yards très très rapidement. Après, là encore, j'ai du mal à sentir, malgré son physique vraiment impressionnant, cette force de la nature qu'il représente, j'ai du mal à sentir vraiment je sais pas comment je pourrais dire ça, mais un vrai engouement dans son jeu. On a l'impression que c'est un joueur qui va avoir quelques absences dans un match, mais quand il va être pleinement impliqué, ça va être très très compliqué de le stopper. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à le voir descendre au-delà, notamment du top 10, parce que je pense que c'est un tel phénomène athlétique, c'est un joueur qui, quand il est pleinement concerné, quand il est surtout à 100%, arrive à faire le boulot. Ça, je pense que ça va plaire aux équipes NFL, et dans des fronts 34 qui sont de plus en plus nombreux en NFL ces dernières années, je pense qu'il va réussir à se faire sa place rapidement sur un front défensif.
C'est pas hyper rassurant quand même quand tu dis qu'il n'y a pas l'air d'y avoir un engouement. Enfin, il est sur le talent pur, quoi.
C'est ça, en fait. Alors, moi, encore une fois, c'est l'impression que j'ai. Mais on a l'impression qu'il se repose parfois un peu sur ses acquis. Et je le répète également parce que certains considèrent qu'il peut être un defensive end 43, on va dire classique. En termes de changement de direction, notamment en termes de mobilité, paradoxalement, il peut courir très vite en ligne droite. En termes, voilà, on va dire que s'il doit être réactif et trouver un plan B si sa pression initiale marche pas, il va pas forcément être le plus motivé, on dira. C'est pas, en tout cas, le plus fluide, et c'est ça qui va être à surveiller. Après, s'il tombe sur un bon coaching staff qui sait l'utiliser correctement, là, très franchement, ça peut être un joueur qui peut être régulièrement pro bowler en NFL.
Bon, et les destinations possibles, alors c'est pareil, ça fait le quatrième quasiment defensive tackle ou le troisième, donc on va revenir un petit peu sur les mêmes destinations, mais le niveau auquel surtout tu le vois sélectionné, c'est un top 10, c'est un top 5 ?
Bah, je te le disais, après, tout dépend de la position préférentielle qu'on lui attribue. Moi, en l'occurrence, je le verrais encore une fois dans un rôle de defensive end 34, parce que c'est un joueur qui aura peut-être du mal à... Même s'il peut mettre la pression, c'est un bon technicien, ça je l'ai pas dit également au passage, mais c'est un joueur qui sait surtout ouvrir des brèches à ses coéquipiers, donc ça va être intéressant. Après, oui, descendre en dessous du top 10, je serais quand même très très étonné. Meilleur des cas, peut-être 5e chez les Buccaneers, qui encore une fois peuvent avoir des besoins sur la ligne défensive.
À côté de Gerald McCoy, serait...
Ça aurait de la gueule.
Costaud. Ça aurait de la gueule. Petit jingle, et parce qu'on a quand même livré le top 5. Le top 5, je vous le rappelle, Quinnen Williams, Nick Bosa, Devin White, Josh Allen et Rashan Gary. Grégory prend une petite gorgée d'eau. Nous, on passe sur un petit jingle et on termine ce top 15.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et on est de retour donc après cette petite pause musicale pour la suite de notre top 15. Grégory, nous allons parler d'un joueur qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, c'est DK Metcalf, receveur d'Ole Miss, 1m96, 108 kg, 7 matchs, 26 réceptions, 569 yards et 5 touchdowns de la saison dernière. Première question très évidente au vu de l'actu récente, est-ce que c'est un pur produit du Combine ou est-ce que c'est un vrai receveur, vrai entre guillemets?
Alors forcément, je sais que le Combine en a fait un petit peu une bête de cirque, si je peux parler ainsi, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a des mensurations assez impressionnantes, et en effet quand il court le 40 yards, ça fait un peu froid dans le dos de voir un peu ce frigo en mouvement. Après non, il y a quand même du talent de ce qu'il a montré sur le terrain. Ce qui a joué en sa défaveur, c'est qu'il a notamment connu une blessure au cou au cours de la saison 2018, qui a écourté son exercice, et surtout qui pose quand même beaucoup de questions, parce que c'est pas entre guillemets une blessure classique, une blessure au cou, c'est quand même quelque chose qui peut occasionner des problèmes de durabilité. Et voilà, sur des duels constants, notamment avec des cornerbacks en presse qui vont pas se gêner pour le secouer un petit peu, même si il y aura du répondant en face, ça peut quand même être quelque chose à surveiller au cours de sa carrière. Après, pour revenir un petit peu sur les coulisses de la manière dont est constitué le Big Board, il n'était pas forcément dans mon top 15 avant sa performance au Combine, et il a quand même, à mon sens, beaucoup rassuré de par justement ses qualités athlétiques. C'est un joueur qui sait parfaitement utiliser son corps, c'est pas uniquement une armoire à glace, il sait comment s'en servir, notamment justement sur la capacité de séparation, même si c'est pas forcément sa qualité première, il va être capable de s'adapter, on va dire, à son cornerback pour réussir à prendre le dessus et réussir à catcher le ballon. Et puis forcément, bah voilà, qui dit grosse pointe de vitesse et capacité justement de séparation, dit grosse menace sur le jeu profond. Donc c'est là-dessus qu'il faudra très clairement le surveiller. Après, il y a en effet des choses qui restent à polir. C'est un joueur qui était uniquement sophomore, donc joueur de deuxième année à sa sortie d'université. Donc c'est un joueur qui est pas forcément encore mature. Il y a des choses qui peuvent poser quelques questions. Je parlais notamment des tracés qui sont pas toujours hyper fluides.
Mais alors, vas-y. Je me permets de t'interrompre, parce que moi justement, tu dis, il y a des questions. Il ressemble à un mec que tu aurais détesté d'habitude, c'est-à-dire que il ressemble à un phénomène physique, c'est un avion de chasse sur 40 yards, il est tanké comme un frigo américain, très bien, mais tu me dis, voilà, les routes, c'est pas super. Et il y a aussi cette histoire.
Ses mains aussi. Ses mains sont pas toujours. Il peut avoir des drops un peu fâcheux, en effet.
J'ai l'impression que c'est John Ross à nouveau, et John Ross, tu le détestais.
Je le vois pas aussi caricatural. Je pense que son. Encore une fois, ses qualités premières peuvent lui permettre d'être un bon receveur sur menace profonde. Après, je pense que le panel peut être un petit peu plus varié. Sur le jeu intermédiaire, je pense que par rapport à ce que je disais, et justement, même si sur les tracés il est pas parfait, il y a quand même cette science du jeu, selon moi, cette capacité quand même malgré tout à prendre le dessus sur son vis-à-vis, qui sur les tracés intermédiaires et derrière justement sur les yards après réception peuvent être quand même assez redoutables. Après, si on en vient à la question des comparaisons, c'est un joueur en effet, c'est presque du kit ou double. Il y a des fois quand je vois ses vidéos, je vois du Dez Bryant, je vois du Josh Gordon. Mmh. Et c'est une comparaison qui revient assez souvent, et c'est vrai que des fois ça saute un petit peu aux yeux. Par contre, il y a des phases où je vois du Justin Blackmon. Et c'est là où il faut savoir D'accord. sur quel profil tu vas tomber. Moi, j'en vois plutôt du Dez Bryant, et c'est pour ça que je le place aussi, aussi haut malgré tout dans mon big board. Parce que je pense qu'il a la capacité de devenir ce receveur numéro 1. Mais voilà, on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il y ait énormément de zones d'ombre au niveau de son jeu et au niveau de cette classe de receveur en règle générale.
Alors, on en parle de cette histoire qui court très très rapidement sur le 40 yards, mais alors, par contre, il est nullissime sur l'atelier des cônes. Alors, on rappelle un peu, c'est un atelier où en gros, il faut se baisser pour toucher des cônes, faire un petit tracé en étoile ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Ça évalue un petit peu la mobilité, le changement de direction.
C'est notamment. Ça. Et là-dessus, il est moins bon que Tom Brady, si j'ai bien compris.
C'est pas sa faculté première, mais voilà, c'est aussi. Je pense que c'est aussi ce qui joue en sa défaveur, notamment quand il faut faire des tracés et quand il faut réussir à prendre l'atout sur son vis-à-vis. Mais encore une fois, voilà, il joue sur d'autres qualités, sur des qualités de vitesse, on va dire, sur une bonne utilisation des mains, une utilisation intelligente des mains pour réussir à prendre de court son adversaire. Après, voilà, je le répète, c'est un joueur qui est encore loin d'être mature. Il y en a beaucoup dans cette classe, beaucoup de joueurs sophomores qui paraissent hyper talentueux, mais qui sont encore à polir. Et pour moi, DK Metcalf fait partie.
Je suis étonné en fait, parce que c'est vrai que moi je l'ai pas vu jouer à Ole Miss, donc voilà, je caricature. Mais quand on voit les temps du combine, j'ai l'impression que le mec en fait est un tank avec un moteur d'avion de chasse derrière, quoi. Donc c'est assez sur la maniabilité. Bon, il y a des choses à revoir, mais par contre, il peut aller très très vite, quoi. Donc c'est après.
Voilà. Après, pour être complet là-dessus, il y a une classe de receveur, j'en parlais, qui pose des questions, qui est assez homogène, mais on va dire où on a du mal à trouver des joueurs complets. Et malgré tout, DK Metcalf, il a ce profil physique et complet qui peut manquer à un certain. Un Marquise Brown va être hyper rapide, mais sans forcément avoir le physique. Un Nkilari va être un peu dans le cas inverse. Là, on a vraiment un receveur qui a les composantes globales, et c'est aussi ce qui joue en sa faveur pour se faire sortir un petit peu du lot.
Alors, on n'a pas parlé de l'inconvénient principal de DK Metcalf, c'est le fait qu'il pourrait mourir d'épuisement après 3 séries, puisque ce garçon a 1,6% de masse graisseuse. Alors là-dessus, comme ça, annoncé comme ça peut faire fun, hein. Wow, il est super en forme, c'est incroyable, etc. Sauf que c'est absolument pas sain d'avoir 1,6% de masse graisseuse. On rappelle que le corps a besoin de réserves graisseuses pour puiser des choses, de l'énergie, des choses comme ça. Donc normalement, si vous êtes très en forme, ça tourne autour de 10% de masse graisseuse, c'est déjà très bien. Les très très en forme, ça descend un peu plus bas côté bodybuilder, etc. Je me suis renseigné là-dessus. Et pour quelqu'un de normal, je crois qu'on est autour de, je sais plus, 20%. Et si vous êtes un camembert, c'est 23%. Mais du coup, 1,6, apparemment, ça peut lui poser des problèmes de carence, oui, de fatigue. J'ai même lu qu'il pouvait avoir des sautes d'humeur.
Sans blague. Non mais honnêtement, alors j'y connais pas grand chose, je suis pas un spécialiste du domaine. Il me semble quand même avoir aperçu qu'il y avait quelques légendes urbaines quand même.
Ouais, bah ouais,
que
quand
c'était
même
un petit peu, que ça, voilà, c'est pas non plus hyper étonnant, mais je pense que 1,6 c'est peut-être un poil exagéré.
Le mec,
je dirais pas qu'on a oublié la virgule, mais bon.
Ouais, déjà s'il était autour de 10%, c'est bien. Un homme qui n'est assurément pas à 1,6% de masse graisseuse, c'est notre numéro 7, Ed Oliver, defensive tackle de Houston, 1m91 pour 132 kilos. On est d'accord qu'avec des mensurations de ce genre, tu n'es pas à 1% de masse graisseuse. Il a joué 8 matchs l'an dernier, 54 plaquages, 14 plaquages pour perte, 14,5, 3 sacs de passes déviées, un fumble forcé. Il a évité le ballgame de son équipe. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Donc ça, c'est déjà un joueur qui a le sens du business. Il a dit, je ne joue pas le dernier match pour éviter une blessure. Sauf que lui, il a aussi eu une embrouille avec son coach.
C'est déjà moins la partie business.
Il a aussi eu une blessure au genou. Voilà, il a aussi eu une blessure au genou. Donc j'attaque sur un angle assez négatif. Ça fait quand même pas mal de drapeaux rouges et pourtant tu l'as 7e. Donc il doit être très très fort.
Oui, bah, on en a longtemps parlé comme un potentiel premier choix de la draft l'année dernière. C'est un joueur qui était très très coté également à sa sortie de lycée et qui avait surpris tout le monde, notamment en rejoignant une petite fac, en tout cas une fac qui ne fait pas partie des principales conférences universitaires, à savoir Houston. Et on s'est aperçu quand même, alors il y a eu du changement de coaching staff, il y a peut-être des choses qui ont joué également en sa défaveur, mais on a la sensation qu'au fur et à mesure des mois, je parlais tout à l'heure de Rashan Gary, il me semble, on sent qu'il est peut-être tombé également un petit peu dans la facilité, il s'est peut-être un peu embourgeoisé et du coup c'est vrai que ça a pu donner quelques scènes un petit peu épiques où il s'en prenait notamment à son head coach parce qu'il ne le faisait peut-être pas suffisamment jouer, parce que selon lui il gérait pas forcément au mieux son retour de blessure, ce avec quoi je suis pas forcément en accord, parce que tu le disais, c'est quand même une blessure au genou. Alors il a manqué que 4 matchs cette saison, il me semble, mais c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère, surtout pour un joueur aussi jeune et qui, tu le disais, est quand même assez carré, quoi. Donc, et pour un joueur qui est assez petit, et ça c'est quand même quelque chose, alors je sais plus exactement combien il fait, mais ça c'est...
1,91, petit.
Pour un lineman défensif, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant.
Pour situer à nos lecteurs, c'est la taille de Tony Parker.
Bah oui, voilà.
C'est le premier qui me vient à l'esprit quand on dit 1,91.
Il fait 1,91, Tony Parker?
Ouais.
Eh ben, dis donc. Très bien. Bon, en tout cas, parenthèse sur le sujet. Non, voilà, ça reste relativement petit.
Attends.
Vas-y, vas-y.
Je viens de vérifier, il fait 1,88, Tony Parker, j'ai dit une bêtise.
Ah ouais.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bon, ça reste très grand quand même. Hein.
C'est pas mal.
On va pas non plus dire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui joue en sa défaveur. Ça lui permet quand même, malgré tout, d'avoir un centre de gravité qui est assez intéressant, notamment pour les duels en 1 contre 1. Ça fait partie également de ces linemen défensifs qui sont assez habiles sur le pass rush, qui ont une parfaite capacité de pénétration et surtout une explosivité impressionnante sur le premier pas. Ed Oliver fait partie de ces joueurs-là et voilà, et ce qu'on recherche de plus en plus, c'est en effet des linemen défensifs qui sont versatiles et qui sont capables de mettre la pression sur des quarterbacks dans une ligue qui passe de plus en plus. Ed Oliver a des points d'interrogation, mais en tout cas répond à cette problématique, et c'est aussi en ça qu'il conserve une certaine cote aux yeux des scouts NFL.
Je vais me permettre de relever, je fais un peu le professeur, mais tu as fait une petite liaison dangereuse, ou alors tu te moques vraiment de sa taille, mais tu as dit en 1 contre 1, donc il est quand même pas nain, tu vois. Genre, je sais qu'il va être contre des linemen offensifs qui sont assez grands, mais en 1 contre 1, c'est quand même. Voilà. C'est un peu compliqué.
J'espère que j'aurai pas vécu.
Je pense pas. Ed Oliver, tu penses qu'il part à quel niveau de la draft du coup?
Alors tu le disais, c'est vrai que malgré tout, ça ressemble également à un pari. Il y en a pas mal mine de rien dans cette draft entre les joueurs qui sont relativement jeunes dans leur cursus universitaire et ceux qui n'ont pas forcément produit comme il fallait. Je pense quand même que de par le prototype physique du joueur, il devrait quand même sortir en début de premier tour. Je serais étonné qu'il passe le 16e choix, par exemple.
Très bien, il sera dans le top 15, donc comme chez nous. Numéro 8, Christian Wilkins, defensive tackle, Clemson, 1m93, 143 kg, 15 matchs, 50 plaquages, 15 plaquages pour perdre, 6 sacs, 2 passes déviées, 1 fumble forcé, 1 bloc, et 2 touchdowns au sol. Mmh. Il est polyvalent, il va chez les Patriots.
ça je sais pas. Va falloir, voilà, c'est mon analyse draft. Pour eux qui descendent au 32e choix. En tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. On va pas se mentir, les Tigers, qui sont champions universitaires en titre, faut-il le rappeler, ont pu compter sur une grosse ligne défensive ces dernières saisons, avec notamment Clelin Ferrell, avec Dexter Lawrence, dont on sera amené à parler au cours des prochaines semaines. Mais pour moi, Christian Wilkins, c'est vraiment le régulateur de cette ligne défensive, le leader incontestable. Et c'est vrai que c'est un joueur qui reste extrêmement complet et surtout extrêmement polyvalent. C'est un joueur qui est principalement defensive tackle, on va dire 43, mais qui peut être un defensive end 34, qui dans la NFL moderne peut être amené justement à, et on l'a vu de temps en temps à Clemson dans ce rôle-là, être un defensive end 43 un peu plus focalisé sur le jeu au sol. Donc c'est un joueur qui est parfaitement capable de vraiment dépanner sur plusieurs positions, et je le disais encore une fois, de faire tout ça avec efficacité, impressionnant athlétiquement parlant, un bon centre de gravité là également. Après, au niveau de ses défauts, j'en vois pas énormément. Il y a forcément la question de la ligne défensive, de l'impact, on dira, des joueurs autour de lui. Ce sera pas le seul pour qui la question va se poser du côté de Clemson. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est pas forcément aussi impressionnant que d'autres sur le papier, mais qui, selon moi, est un top 10 talent de cette draft et qui sera à surveiller parce qu'il y a une éthique de travail, surtout une productivité sur le terrain qui est assez intéressante et bluffante. C'est un technicien hors pair, donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui me font dire que il sera peut-être pas top 10. Il est dans mon top 10 personnel, mais j'aurais du mal à le voir quitter peut-être le top 12, voire le top 15. Qu'il descende plus bas, je serais quand même très étonné.
C'est pas toujours facile de figurer un peu les linemen pour les gens qui les ont pas vus jouer. T'aurais une comparaison NFL pour Christian Wilkins?
Non, je t'avoue, j'ai pas potassé là-dessus. Je dois réfléchir encore, mais enfin, franchement, c'est ça va être du très très solide. Je pourrais te dire un Fletcher Cox, mais j'en suis même pas sûr. Enfin, en tout cas, il peut avoir ce profil-là.
Allez, on continue à remonter la ligne. Brian Burns, defensive end de Florida State, 1m95, 98 kg, 12 matchs, 52 plaquages, 15,5 au niveau des plaquages pour perdre, 10 sacs, 3 passes déviées, 3 fumbles forcés. Il lui restait une année possible à la fac. Est-ce qu'il est prêt?
Il m'a l'air prêt. En tout cas, c'est un joueur qui grimpe au fur et à mesure des semaines, on dira, dans les différents boards des équipes NFL. Là pour le coup, autant je parlais de Christian Wilkins qui au niveau de la défense de Clemson était quand même assez bien épaulé, on peut pas vraiment dire que ce soit le cas du côté de Brian Burns qui notamment ses deux dernières saisons du côté de Florida State a été absolument tout seul dans la défense des Seminoles et qui pourtant a pratiquement tenu à bout de bras cette défense floridienne. Donc honnêtement qu'il parte une année avant sa fin d'éligibilité, c'est pas ce qui me choque le plus. Alors il a, on dira, les inconvénients qui vont avec certains avantages, en ce sens que c'est un joueur qui peut être là aussi extrêmement polyvalent. Il a un physique assez atypique, assez longiligne, qui lui permet à la fois de pouvoir être un defensive end 43 ou un outside linebacker 34 à l'échelon supérieur. Par contre, en l'occurrence, il y a des... comment je pourrais dire ça ? C'est un joueur qui, bon, a quand même quelques points d'interrogation, notamment d'un point de vue puissance. Et c'est ce qui va être à surveiller, et ce qui va être capable de réussir à faire la transition, parce que il était en effet, il joue beaucoup sur la vivacité, sur notamment une bonne panoplie de moves. Ça aussi, c'est à mettre à son crédit en l'occurrence. C'est un de ceux, peut-être avec Nick Bossa, qui est le plus établi là-dedans. Après, il y a peut-être également le jeu au sol qui peut poser question. C'est un joueur qui doit apprendre à finir ses actions, peut-être, selon moi. Ce qui peut peut-être, selon moi, reconditionner la possibilité d'en faire un outside linebacker 34. Mais après, il est extrêmement complet. Et si on arrive, si on arrive là encore à le placer dans le système qui va réussir à le faire performer, pour moi, ce sera également un pro bowler assez régulier.
Une petite comparaison, t'as ou pas ?
Ouf. Ah, je t'ai dit, j'ai du mal chaque année avec les comparaisons.
Oh, écoute, je ne demande plus. Et si t'en as une, tu me
la donnes. Je retravaillerai ça d'ici la preview, je te le promets. Mais
voilà. Numéro 10, pour boucler le top 10, c'est Jonah Williams, offensive tackle d'Alabama, 1m96, 137 kg. Est-ce qu'il sera tackle aussi en NFL ? Parce que c'est une question que j'ai beaucoup vue en préparant.
Tout à fait. Alors, c'est vraiment le lineman offensif dans la plus pure tradition des tackles d'Alabama. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'est encore une armoire à glace. C'est un joueur qui joue beaucoup sur la taille, la force physique et la technique en règle générale. Il a subi très très peu de pression du côté de cette équipe d'Alabama. Et là, quand même, on peut voir la différence, c'est qu'on avait tendance à un petit peu cataloguer, je dirais, les linemen du Crimson Tide comme des joueurs exclusivement spécialisés sur le jeu au sol. Jonah Williams, en l'occurrence, a été très efficace sur le jeu au sol. Après, il a quand même vu du côté d'Alabama un jeu beaucoup plus axé sur la passe, notamment avec Tagovailoa. Donc, en l'occurrence, ça lui a permis quand même de se faire ses classes, on dira, sur le jeu à la passe. Après, voilà, il y a quand même toujours, encore et toujours, cette question de la mobilité, des déplacements latéraux, on dira, pour vraiment savoir s'il sera capable de contenir sur toute la durée d'un match un pass rusher assez vif. C'est pas encore sûr et certain. Il y en a qui le catégorisent déjà comme un futur garde ou centre. Je sais pas. On était également sceptique sur un Cam Robinson il y a quelques années, qui a finalement réussi, malgré sa blessure de l'année dernière, à devenir un tackle côté aveugle du côté de Jacksonville. Donc je demande à voir. C'est un potentiel très intéressant depuis son arrivée sur le campus de Tuscaloosa. Donc au pire, il peut devenir un tackle côté droit, mais je ne serais pas forcément catégorique sur le fait que ce soit à terme un lineman intérieur.
Numéro 11, TJ Hawkinson, tight end d'Iowa, 1m96, 104 kg, 13 matchs, 49 réceptions, 760 yards et 6 touchdowns. C'est un joueur qui aurait aussi pu rester une année de plus à la fac. Visiblement, il a pris la...
Même deux,
d'accord.
Oui, mais il est sophomore.
D'accord, visiblement, il a pris la bonne décision de partir puisque tu le considères prêt.
Oui, alors c'est encore une fois, ça fait partie de ces grands talents. TJ Hawkinson, pour moi, c'est presque le petit surdoué de la classe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui était attendu comme un simple remplaçant du côté d'Iowa et qui est devenu vraiment la vedette de l'attaque des Hawkeyes avec l'autre tight end dont on va parler tout à l'heure.
Spoil.
C'est ça. Et du coup, j'en profite hein, parce que la classe de tight end n'est pas extraordinaire cette année. On va le dire tout de suite, on avait beaucoup d'espoir, mais sur le papier, elle n'est pas impressionnante. Après, il y a quand même deux joueurs d'énormes talents et TJ Hawkinson en fait partie.
C'est ce que j'allais dire, pas impressionnante, mais deux joueurs dans le top 15, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est ça, on est d'accord. Mais c'est un excellent bloqueur. Techniquement, il y a quand même très très peu de choses à jeter. Et puis c'est un joueur qui s'est révélé avec d'excellentes mains également. Il n'a pas la productivité, je dirais, qu'ont pu avoir d'autres tight ends durant leur cursus universitaire, mais dès qu'on est dans des moments chauds et dès qu'il faut catcher des ballons, il sait le faire, et surtout il sait être efficace sur n'importe quel secteur de jeu. Donc c'est vraiment le tight end moderne par excellence, peut-être un tout petit peu frêle pour la position. Alors c'est paradoxal, je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 104 kilos,
104 pour 1m96,
voilà. Encore une fois, ça fait un peu rigoler, mais il y a des tight ends qui généralement sont un peu plus tankés, on dira. Y a peut-être d'autres exemples. Je sais que moi, la comparaison que j'avais prise d'un point de vue physique, c'est peut-être un Hunter Henry. Je pense qu'il est un petit peu dans ce profil-là, mais ça peut devenir un joueur encore plus fort. Ça peut devenir, pour reprendre l'exemple avec un autre tight end sorti d'Iowa qui a été très productif cette année, ça peut être un George Kittle. Qui en termes de yards à la réception peut être hyper efficace en apportant en plus cette plus-value sur les blocs et sur l'ouverture de brèche.
Et pour indication, Henry est à une dizaine de kilos de plus pour l'instant.
Voilà.
Numéro 12.
De toute façon, je te coupe, mais je pense qu'il prendra quand même un petit peu. Ça m'étonne qu'il le laisse. Avec ses capacités de bloc, je pense qu'il y a peut-être qu'un Evan Ingram qu'on avait laissé un petit peu à son poids initial, mais parce que, voilà, après, notoriété publique, il était surtout efficace à la passe.
Il sera bien nourri, il va avoir un vrai contrat, il va pouvoir se payer un chef et tout ça, donc quand même. Numéro 12, Jawan Taylor, offensive tackle de Florida, 1m96, 149 kilos, c'est notre deuxième lineman offensif. Est-ce qu'il doit encore progresser en termes de maturité et de technique? Ça semble être un prospect assez physique d'abord.
Oui, exactement. Tu as souligné quelque chose d'intéressant, dans le sens où sa technique me paraît pas encore parfaite. Il n'y a pas une utilisation... des mains excellentes, et ça c'est sûr que pour un joueur là encore qui est amené à devenir aux yeux de beaucoup d'observateurs un tackle d'envergure en NFL, ça pose quand même quelques questions si on doit tenir en respect là encore des pass rushers sur une base régulière. J'ai du mal à le voir devenir un tackle côté aveugle, par contre ça peut être un excellent tackle droit. Il a le physique, il a quand même une bonne capacité de déplacement et une mobilité qui peut lui permettre notamment sur le jeu au sol d'être efficace. Voilà, je pense que c'est un joueur qui lui aussi s'est révélé un petit peu sur le tard. Je pense qu'il y a des choses qu'il doit encore apprendre, et même si la technique et notamment le sens du placement, c'est pas des choses qui s'apprennent en un claquement de doigts, mais en tout cas c'est un je sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, c'est un joueur qui c'est un scientifique, c'est un étudiant du jeu, on dira, et quelqu'un pour qui je me fais pas trop de soucis. Je pense que c'est pas le genre de joueur qui va arriver en se disant que tout est acquis et qui se remettra pas en question. Donc il y a du potentiel. Après, là encore, ça fait partie encore une fois de ces nombreux paris du premier tour.
Numéro 13, Clelin Ferrell, defensive end de Clemson. On a parlé d'un de ses coéquipiers de ligne tout à l'heure. 1m93, 120 kg pour Clelin Ferrell. 15 matchs, 54 plaquages, 19,5 au niveau des plaquages pour perte, 11 sacs et demi, 4 passes déviées, 3 fumbles forcés. C'est donc Clemson, encore une fois, un champion. Il connaît les gros matchs, il connaît les grosses ambiances. Ça fait un moment qu'il est titulaire en plus. Il a beaucoup d'expérience, parce que je me rappelle l'avoir vu pour le coup à l'époque où j'avais un peu suivi la NCAA. Donc Clelin Ferrell. Est-ce que c'est un choix plus sûr du coup avec toute cette expérience de titulaire et de jeu?
Oui, bah c'est un joueur, là pour le coup je parlais de joueurs qui sont pas assez matures, c'est sûr que Clelin Ferrell, ça fait 3 années où il est titulaire quasiment à temps plein du côté de cette défense de Clemson, et même si cette dernière saison, sur certains matchs, je ne l'ai pas trouvé aussi impressionnant que j'avais pu le voir avant, peut-être que lui aussi également en gardait un petit peu sous le pied, hein, c'est possible. Mais en tout cas c'est un joueur assez détonnant. Lui pour le coup il a sûrement un des meilleurs premiers pas de cette classe, et on sait que sur le poste de pass rusher c'est quelque chose qui est extrêmement recherché. De par son gabarit, sa taille également, ça peut surtout être un defensive end 43. Après pour être un outside 34, ça ferait pas forcément tâche. Encore une fois, il a la vitesse et l'explosivité pour réussir à compenser tout ça. c'est un bon technicien également, c'est-à-dire que avec des panoplies de moves qui restent assez solides. Donc en l'occurrence, s'il arrivera malgré tout à avoir cette réflexion, cette réactivité, on dira, en fonction des événements, pour réussir à mettre la pression sur le quarterback adverse. Sur ce quelques défauts, voilà, la question sur l'impact de son entourage, on dira, du côté de Clemson, et puis peut-être également malgré tout.
Attends, ça veut dire quoi l'impact de son entourage?
Non, mais par rapport à, oui, par rapport aux joueurs qui l'entouraient. D'accord. Oui, c'est la même problématique que Christian Wilkins. Après, c'est vrai que d'un point de vue physique, on l'a vu des fois un petit peu en difficulté. Et c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer certaines performances en demi-teinte dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un joueur qui a la vitesse, qui techniquement est quand même assez propre. Après, est-ce que physiquement, on dira, il arrivera à mettre pleinement la pression sur le quarterback adverse? C'est toujours la zone d'ombre un petit peu avec ces defensive ends de Clemson qui sont globalement talentueux en sortant de college football. Mais si on prend les exemples de ces dernières années, on a du Vic Beasley, qui a été quand même assez régulier durant sa carrière pro. Et puis on a aussi et surtout du Chuck Mason ou du Kevin Dodd. Donc voilà, ça peut être très bon, ça peut être cohérent sans plus, et ça peut être assez désastreux. Là encore, il va falloir trouver son meilleur point de chute et sa meilleure utilisation.
Tiens, chez qui tu le verrais ?
Je pense que si Détroit est intéressé, ils peuvent éventuellement loucher sur lui. Après, je te le dis, moi j'ai cette interrogation, je le vois plus sur un front 43. Après, il y a peut-être des arguments, des attraits que j'ai pas suffisamment identifiés chez lui pour le voir peut-être plus versatile qu'il n'est vraiment.
Noah Fent, joueur de Iowa aussi, tight end donc le deuxième, et je vous dis ça au moment où je vois des news NFL qui tombent en même temps. Noah Fent, donc tight end d'Iowa, 1m96, 109 kg, 12 matchs, 39 réceptions, 519 yards et 7 touchdowns. C'est un collègue de Hawkinson donc. Lui est moins bon sur les blocs, il semble moins complet.
Ouais, il semble, hein, seulement parce que on va dire qu'il n'est pas aussi impressionnant. Il dégage pas la même facilité, je dirais, qu'Hawkinson. Et il est plus dans justement le côté la qualité athlétique et dans la mobilité très clairement. Je prenais l'exemple d'Evan Ingram tout à l'heure pour expliquer que c'est rare les tight ends qui restent au poids relativement frêle qu'ils ont à la sortie de l'université. Noah Fant peut être exactement dans ce profil là. C'est-à-dire que même s'il est bien meilleur sur le bloc selon moi, ça va être une grosse menace sur le jeu aérien. Mais ça restera un joueur complet. Encore une fois, les tight ends qui sortent d'Iowa, c'est des tight ends à qui on apprend la technique du bloc. C'est une fac qui est extrêmement spécialisée là-dedans, avec notamment Kirk Ferentz qui est un disciple de Bill Belichick. Donc voilà, le côté rigueur, le côté technique, c'est quelque chose qui est martelé. Et même si Noah Fant a perdu sa place de titulaire indiscutable vis-à-vis d'Hawkinson, ça n'en reste pas moins un gros talent et un potentiel premier tour et un titulaire plus que crédible en NFL dans les prochaines années.
Le dernier membre de notre top 15, c'est Garrett Bradbury, un centre de NC State, 1m88, 136 kg. Il était tight end au lycée. Ensuite, il a mangé beaucoup de Chocapic et de Nutella. Il s'est un peu épaissi. Maintenant, il est centre. Complet, apparemment. Qu'est-ce que tu lui trouves de plus qu'aux autres centres de cette QV ?
Bah écoute, t'en parlais. Le fait que ce soit un ancien tight end, il n'a rien perdu de sa mobilité. Et je vais rien t'apprendre, on voit que la grosse tendance des linemen offensifs ces dernières années, c'est d'être hyper mobile, d'avoir une faculté à décrocher et à être hyper agressif vis-à-vis des défenseurs. C'est quelque chose qui est très recherché et Garrett Bradbury représente clairement ça. Ce qui me paraît quand même un peu moins évident chez certains autres linemen offensifs, je pense notamment à Cody Ford d'Oklahoma, qui paradoxalement est très 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 bon aussi, mais qui a peut-être pas cette mobilité que possède Garrett Bradbury et globalement cette technique qui est assez qui me paraît plus que solide. Alors en effet, il a pris du poids. Physiquement, c'est pas celui qui m'impressionne le plus dans cette classe. Si je prends l'exemple de Dalton Risner à Kansas State, il est peut-être un petit peu moins dans cet état d'esprit-là. Mais en l'occurrence, voilà, c'est en effet très complet et surtout un joueur qui va être... là aussi, c'est un des traits que j'aime beaucoup. Il va plus être actif que passif. Et ça, en effet, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup en NFL. C'est les linemen qui savent imposer leur respect plutôt que de tenir en respect leur vis-à-vis.
Et bien voilà pour le top 15 de la draft selon Grégory Richard. Je sais que ça va être polémique parce que là il va y avoir des tas de gens qui vont refaire le match et un tel il devrait pas être dans le top 15. Évidemment, c'est une base indicative. Évidemment, on est ouvert au débat et il y aura d'autres émissions pour compléter tout ça et pour parler de tous les autres prospects. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'oublier le moins de personnes possible et surtout ce sera complété avec les fiches draft puisque ça va commencer très bientôt. Ça a commencé au moment où vous écoutez cette émission sur le site. Il y a 2 fiches draft par jour. Il y a eu le top 100 dimanche. Il va y avoir des mock drafts, enfin il se passe beaucoup de choses et on remercie Grégory qui gère la rubrique draft. Tu es chef de rubrique draft un petit peu chez TDA et donc tu es aidé quand même cette année par Jean-Michel, par Mehdi et par Kevin, toujours
par Kevin, tout à fait,
et ouais. Par Kevin Zermatten. Voilà donc pour le top 15 et on se quitte avec vos questions. On ne s'est pas tout à fait fini, petit jingle et questions. On termine donc cette émission avec vos questions, Grégory. Quelques petites questions très précises. Et alors, je commence par celle de Dirty Fighter parce que je la trouve excellente. La NFL ajoute tellement de choix supplémentaires, que 10 compensatoires de manière plus ou moins aléatoire à des équipes, une trentaine, et tellement de joueurs non draftés sont testés. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt intérêt à ajouter un 8e voire un 9e tour à la draft?
Pourquoi pas? Pourquoi pas, moi c'est pas ce qui me dérangerait dans le fond. Après, c'est sûr que les choix compensatoires et du coup des choix supplémentaires, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les choix compensatoires, ça récompense malgré tout justement le fait qu'on construise via la draft. Si tu laisses partir des joueurs via la free agency, mais que tu arrives à les remplacer par d'autres joueurs que tu recrutes à la source, on va dire. Voilà, c'est pas illogique que tu sois récompensé via la draft. Après, encore une fois, oui, pourquoi pas rajouter quelques tours, surtout quand on voit que les rosters sont encore plus impressionnants lors des camps d'entraînement. Bon, j'allais juste te dire, ça évitera justement la partie négociation avec les agents libres et ça permettra à d'autres joueurs d'être draftés, justement d'avoir ce contrat garanti, ce minimum garanti, on dira, par rapport à leur tour de draft. Après.
Et ça ferait encore plus de boulot pour les analystes draft.
Tout à fait.
Encore plus. Ce
sera un beau bordel. Ce sera un beau bordel parce que du coup, 300, on sera 350, 400 joueurs.
moi, je dis, si tu dis à la NFL qu'ils peuvent rajouter un jour de diffusion, donc plus de pubs, plus de machins, ça peut se négocier.
Moi, je suis pas sûr que c'est ce qu'on suivrait le plus quand même, le 8e et le 9e tour.
ça commencerait à être long. Question de Papa Lions. Bossa a déclaré avoir donné une interview aux 8 premières équipes qui vont drafter lors du combine. Voyez-vous un scénario possible, type quarterback, dit proche sur les quarterbacks, pardon, même si celui-ci devient de moins en moins probable, qu'il fasse sortir du top 5? Ne trouvez-vous pas qu'il a une trop. Alors, ça, c'est autre chose. Bon, donc, Bossa hors du top 5, ça te paraît improbable totalement?
On a déjà vu des situations où les meilleurs joueurs apparents de la draft descendaient un petit peu. T'as eu un Leonard Williams, par exemple, qui était très bien considéré une année et qui est descendu en 6. Pareil pour Jamal Adams, par exemple. C'est jamais sûr à 100%. Après, là, honnêtement, Bossa, ça reste du pass rusher. Ça reste quelque chose, ça reste presque le poste le plus important défensivement pour des équipes NFL. Donc même avec une course sur les quarterbacks et j'en vois pas 3 ou 4 être sélectionnés, je serais quand même très très surpris qu'ils descendent hors du top 5.
Il demandait aussi, ne trouvez-vous pas qu'il y a une trop grosse hype sur Montez Sweat après son excellent combine et son très bon senior bowl? Certes, le joueur est très bon, mais a-t-il vraiment le potentiel pour un top 10? Alors toi, visiblement, tu trouves pas qu'il est top 10 puisqu'il est pas dans le top 15.
Alors, je vais faire une confidence. Certains l'ont peut-être déjà vu, il est numéro 16.
D'accord.
Voilà, donc il n'est pas dedans, mais c'est pas un joueur que je néglige, loin de là.
Poste pour le situer?
C'est un edge rusher. Edge rusher, et lui, pour le coup, du côté de Mississippi State, autant il y en a qui ont des points d'interrogation là-dessus, autant lui, il a joué sur les deux postes de manière très efficace. Donc de toute façon, peu importe dans quel système tu le prends, je le verrai peut-être plus comme un outside linebacker 34. Mais je pense que globalement, il sait tout faire. Et sur la dernière saison, il l'a montré. Donc, Après, la question est quand même un peu bizarre. Parce qu'on nous dit, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Alors que le mec a juste fait un bon combine, juste fait un bon senior bowl, il a fait une bonne saison. Donc, c'est un joueur qui reste, qui est hyper athlétique, qui a quand même un physique assez dissuasif et un bon moteur, comme on aime dire aux États-Unis. Donc, il est capable de répéter les efforts. Très franchement, c'est pas le joueur qui me fait le plus peur sur cette classe de pass rusher, contrairement par exemple à un Jakai Polite à Florida qui a extrêmement déçu lors du combine. Montez Sweat, je pense que ça peut être une petite valeur sûre, mais ça on en reparlera sûrement lors d'un prochain podcast.
Question d'Archie Manning, je sais que j'anticipe un peu, mais l'après-brise me fait très peur. Y aura-t-il des quarterbacks valables dans un voire deux ans à la draft? Alors on va peut-être pas faire la preview dans deux ans, mais on peut dire qu'il y aura comment il s'appelle?
Tagovailoa.
Bon, bref.
Non, mais l'année prochaine, il y aura du quarterback à ses côtés, du Jake Fromm, alors qui n'est pas exactement dans le même profil, mais qui peut être un nouveau Alex Smith. Et puis Justin Herbert, qui devait s'inscrire cette année et qui a préféré rester une année plus à Oregon, ce qui, je pense, est un bon choix.
Et le blondinet de Clemson, comment il s'appelle?
Trevor Lawrence, mais lui, il pourra venir que dans deux ans, vu qu'il n'était que freshman cette année. Donc, d'accord. Il a encore deux années à faire à la fac.
Floriders, Mac Mayock. Oui, il a encore un peu de temps. Floriders, Mike Mayock n'est pas fan du combine et préfère évaluer les joueurs pendant l'intensité d'un match comme le Senior Bowl. Pensez-vous par conséquent que ce sont principalement des joueurs du Senior Bowl que John Gruden a dirigé qui seront choisis par les Raiders au moment de la draft?
Je suis pas sûr. je suis pas sûr parce que je suis pas en désaccord avec la politique de Mike Mayock, mais à partir du moment où tu forcément sur un Senior Bowl, tu ne vois pas tout le monde.
Oui.
Voilà, tu peux pas les juger sur la même chose. Après, je comprends bien ce qu'il dit. Hein.
C'est un peu ce qui m'embête un peu avec le combine, c'est que on a l'impression que certains font remonter complètement dans leur estime des joueurs qui ont fait des bonnes saisons ou pas, ou l'inversement. Enfin, j'ai l'impression que des mecs qui courent en slip pendant deux jours, ça a beaucoup plus d'influence que 15 matchs qu'ils ont joué pendant l'année. Et des fois, j'ai un peu de mal à comprendre.
Bah, tu regardes pas forcément les mêmes choses. C'est sûr que le combine, forcément, ça va faire la part belle aux qualités athlétiques, au fait de courir vite, d'avoir une bonne mobilité, etc. Alors que forcément, le Senior Bowl, tu vas être beaucoup plus dans l'impact physique, dans le duel en un contre un. Donc c'est sûr que voilà, c'est deux profils différents. Ça peut être parfaitement complémentaire, mais c'est sûr que quand t'es pas senior, bah on va plus regarder le combine parce que forcément, bah t'as pas tout fait.
Après, est-ce que le combine n'a pas ce truc qui rassure les observateurs de dire à la fac qu'il était peut-être justement supérieur à une concurrence qui n'est pas NFL, alors que quand ils sont au combine, on les compare avec des chiffres qui sont en dur, qui rassurent et qui sont contre des joueurs NFL, quoi.
De toute façon, mais ça c'est pareil, on en reparlera sûrement prochainement, mais le propre des scouts NFL, c'est d'essayer de se rassurer et d'essayer, malgré tout, de prendre le moins de risques possible. Donc c'est sûr que... Je veux pas nous lancer des fleurs, mais c'est vrai que nous on essaie de pousser le raisonnement un tant soit peu sur les qualités et les défauts. Voilà, il y en a certains, je pense que leur fiche c'est bon, bah voilà, il fait 6-4, 270 pounds. Oh là là, ça va être un super joueur. Je pense que des fois, malheureusement, le raisonnement n'est pas poussé très très loin, et c'est aussi pour ça que le combine des fois est considéré de manière un petit peu exagérée selon moi.
Question d'Aurélien, salut la team TDS, qu'il ne serait pas une bonne idée pardon, pour les Patriots de drafter un quarterback pour le mettre derrière Brady un ou deux ans selon la saison qui arrive, même si les quarterbacks cette année ne sont pas exceptionnels, on sait ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a, allez, juste un nom, donne-moi un mec pour les équipes qui ont besoin d'un quarterback deuxième, troisième tour, comme aiment bien faire les Patriots, pour mettre sur leur banc. Un nom, deuxième, troisième tour.
Bah, si tu cherches un vrai projet, moi je me dis qu'un Daniel Jones, ça peut éventuellement se tenter. Genre de Duke. Après, je sais pas. Il y a un Drouloc à Missouri qui intrigue, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites failles mentales. Et après, c'est vrai qu'il y a énormément de paris cette année. Donc voilà. Mais si je devais tenter peut-être un projet, un joueur vraiment à couver pendant 2-3 ans, peut-être que Daniel Jones, ça peut se voir.
Twix Nation, hormis l'appel du pied des Jets pour descendre à la draft, quelles autres équipes vont faire de même, les Bucks ou les Rams, si les Cards choisissent de descendre de leur premier choix, jusqu'où peuvent-ils descendre? Allez, un petit prono, qui descend, tiens. On va faire ça sur le top 10. Qui descend dans le top 10? Arizona, San Francisco, Jets, Raiders, Buccaneers, Giants, Jacksonville, Détroit, Buffalo, Denver. Je pense que les Jets, c'est assez acquis, non?
Ouais, peut-être. Bon, encore une fois, ça dépendra des circonstances et de qui Arizona prend, parce que manifestement, c'est une question qui fait la une de l'actualité en NFL ces dernières heures.
On peut dévier là-dessus. Tiens, c'est le premier podcast où on parle de draft. Kyler Murray numéro 1, est-ce que tu y crois?
Écoute, il n'y a plus rien qui m'étonne. Après, très franchement, j'espère pas. Moi, dans mon board perso, il est 41e, donc si tu veux, voilà, c'est un choix à prendre. Encore une fois, de toute façon, c'est un joueur que tu mettras dans le système qui lui convient le plus. Bon, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, ça me paraît un petit peu démesuré. Mais bon, c'est propre des quarterbacks. Pour finir avec les trade downs, peut-être Jacksonville, voire Buffalo dans le top 10, ouais. Ou Denver.
Ouais. Surtout s'ils signent Nick Foles, les Jaguars. Mmh. Je continue à descendre les questions. Rob Bears, quels sont pour vous, parlons des trois plus gros besoins des Bears à combler par la draft? Alors là, je vais faire simple, je vais renvoyer Rob Bears vers le papier War Room qui a été publié, où il y a tous les besoins des équipes. Lee de place, salut la team. Selon vous, est-ce que ça vaut encore le coup de drafter des receveurs au premier tour? Depuis la draft 2014 avec Beckham, Landry, Evans et Watkins, les receveurs draftés au premier tour ont eu de très peu d'impact, comme Kevin White, Laquan Treadwell, John Ross, Josh Docton et d'autres. Cependant, Juju Smith-Schuster, Cooper Kupp, drafté après ont eu un impact immédiat, un coup bien plus intéressant en tant que GM, que feriez-vous? En même temps, là, l'idée de place, il nous donne les deux arguments, c'est-à-dire que bah, Beckham, Landry, Evans, ça marche. Donc,
c'est je le rejoins, c'est sûr que on a eu un petit peu un changement de phénomène où c'était plus le running back qui reprenait le devant de la scène, on dira, en college football ces dernières années, au détriment justement des receveurs. Après, on n'est pas à l'abri de retomber sur une draft comme celle qu'il évoque, avec notamment Beckham et Evans. Donc là, il y a quand même du talent et surtout du profil vraiment différent. Marquise Brown, par exemple, est un nouveau Edition Jackson. C'est vraiment une pile électrique, un joueur qui est vraiment... Enfin, je pense qu'au combine, il se serait régalé parce qu'athlétiquement, c'est vraiment un phénomène. Il y a un Kelvin Harmon qui paye pas de mine, mais qui, je pense, va être un excellent receveur de possession à l'échelon supérieur. Il y a quand même des joueurs qui, s'ils sont choisis au premier tour, peuvent être quand même des choix intéressants. Et heureusement qu'on va pas repartir sur un phénomène comme ça... ad vitam aeternam, mais la question peut se poser quand même de par le fait, comme je disais, que la classe reste relativement homogène.
Ouais, et puis après, enfin, des Julio Jones, des DeAndre Hopkins, enfin, tout ça c'est premier tour, hein, donc
on est d'accord.
Si le bon mec est là. Dernière question, c'est Dijon Niners. Salut la team, question simple pour les Niners. Meilleur choix sur le papier pour les Niners en deuxième pour la défense 4-3. Bossa, Josh Allen, Quinn and Williams, la réponse D. Trade down pour plus de picks, c'est Burns ou Sweat. Entre parenthèses, Valtier, un top 15. Et F, Obi-Wan Kenobi. Donc, Bossa, Josh Allen, Quinn and Williams. Pour les Niners.
Les trois, ça me paraît pas mal. Moi, je le disais tout à l'heure, Josh Allen, j'aime beaucoup pour leur système. Après, franchement, si tu prends Bossa en deux, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé? Si tu mets Williams à côté de Buckner, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être perturbé? Non, très franchement, là encore, s'ils ont la possibilité de prendre un de ces trois-là, Bossa me semble le besoin prioritaire dans le sens pass rush. Après, Josh Allen me semble le fit qui correspondrait le mieux peut-être à cette défense des Niners.
Et puis on termine du coup, parce que les Niners sont en deux, ils seront derrière a priori celui qui va sélectionner Kyler Murray, et Dijon Niners disait donc qui va craquer, Cards ou Raiders?
Sur le quarterback?
Ouais. Je sais pas lequel serait le plus bête, celui qui a Josh Rosen ou celui qui a déjà Derek Carr d'ailleurs.
Oui, non mais après je te dis, on en a fait un petit peu toute une montagne sur Arizona. Kyler Murray, cette déclaration de Kingsbury sur Murray, alors que Kingsbury n'était même pas encore head coach des Cards à l'époque. Oui. Donc, on fait un petit peu monter la sauce. C'est sûr que Arizona joue un gros coup. Après, très franchement, il y a énormément de besoins dans cette équipe d'Arizona. Et même si tu peux récupérer potentiellement un troisième tour pour Josh Rosen. T'as tenté le coup l'année dernière, vous en parliez lors du dernier podcast, il était quand même très mal entouré l'année dernière, que ce soit d'un point de vue joueur et coaching staff. Voilà, Kingsbury, il vient peut-être aussi pour ça, pour développer un joueur qui a déjà évolué dans un système air raid en college football. Très franchement, je serais étonné qu'Arizona mise sur un quarterback. Je le disais, j'en ai vu d'autres, ça me paraîtrait pas forcément le choix le plus judicieux. Et un Quinnen Williams, par exemple, ça me paraîtrait le choix actuellement le plus approprié pour eux.
Et bien voilà pour l'épisode numéro 286 du podcast Jeune Actu, le premier où on a parlé de draft. Merci de nous avoir suivis. On va se revoir le jeudi 21. Là, ce sera pour un bilan de la Free Agency. Et puis, on se reverra après les semaines suivantes. Alors, il y aura un autre bilan de la Free Agency. Et puis après, on va enchaîner sur les podcasts draft. Vous retrouverez Grégory pour parler prospect. On va parler des quarterbacks. On va parler de toutes les intrigues. On va essayer de faire ça comme tous les ans, vous avez l'habitude. On n'a pas encore d'ailleurs bien décidé ce qu'on fait poste par poste, ou est-ce qu'on fait les busts, les stars, etc.
C'est toi qui décides, moi je te laisse les coups des franges là-dessus. Hein.
Je sais pas, j'aime bien l'idée de titrer un peu genre tac, les stars de la draft, bam, les busts potentiels de la draft, bam, un peu comme ça, je trouve.
Du coup on fait un podcast petit bois quoi.
Ouais,
ça va être la langue de vipère pendant une heure, quoi. D'accord.
Mais ouais, ça me plaît bien, ça en fait. Là, plus d'accord. Je le dis, plus ça me plaît bien. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Merci beaucoup, Grégory, pour tous ces
toujours
éclairages. Et puis on se retrouve donc sur tojanactu.com bien sûr pour l'actualité, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @tojanactu, les Twitter perso @thieloradiosa pour Grégory, @alainmatei pour moi-même. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur tojanactu.com. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao ciao, on se quitte en musique. This morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.